Shalom, אנחנו קוראים בספר
דברי בראשית. Nous commençons
nous lisons dans les écrits
avec
de Baal
les écrits de Baal HaSulam,
les articles de Shamati,
66,
article numéro 66, concernant le don de la Torah. Vous pouvez trouver le matériel d'étude sur le site et dans le système en route. Vous devriez cliquer sur le bouton matériel d'étude dans le menu supérieur. Vous pouvez aussi le recevoir en français en vous inscrivant à une liste d'envoi. Les questions au sujet du sur le sujet pourront être posées. Sur le sujet pourront être posés pendant la leçon.
Matan Torah.
Le don de la Torah. Par rapport au nom Torah. Et à l'action du don de la Torah. De qui, à où. Que ça a lieu, quand est-ce que ça a lieu, quand une personne peut-elle atteindre la réception de la Torah? Il y a beaucoup de questions en tout cela. Et ça, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Donc, pour le moment, lisons. Concernant le don de la Torah, au sujet du don de la Torah qui a été produite sur le mont Sinaï. C'est la question, qu'est-ce que le mont Sinaï, est-ce qu'ils ont donné la Torah là, et qu'en est-il de ceux qui n'étaient pas là? Cela ne signifie pas que la Torah a été donnée une fois. Et alors le don s'est arrêté. Plutôt, il n'y a pas d'absence dans la spiritualité, car la spiritualité est éternelle, une matière éternelle qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il existe toujours pour tous et chacun. Quand il est qualifié, adapté pour la réception de la Torah, mais puisque depuis la perspective du donneur, nous sommes inadaptés à la réception de la Torah, nous disons que la cessation est du supérieur, l'arrêt vient du supérieur, c'est-à-dire la lumière supérieure descend à nous, nous existons dedans, en vérité il n'y a pas de changement dedans, nous parlons de cette façon parce que c'est plus facile pour nous de comprendre notre connexion, la question de notre connexion avec le Créateur, qu'il s'occupe de nous afin de nous promouvoir, afin de nous élever de degré en degré. Et donc, nous disons que la lumière supérieure vient et elle va et sur différents degrés. Cependant, en vérité, ce n'est pas ainsi. C'est pourquoi il dit, il n'y a pas d'absence dans la spiritualité, la lumière supérieure brille toujours, c'est une matière éternelle qui ne s'arrête pas, mais de la perspective du donneur, nous sommes inadaptés à recevoir la Torah. Il y a des conditions pour que nous soyons en mesure de recevoir cette lumière supérieure appelée la Torah. Donc, nous disons que l'arrêt vient du supérieur, mais en vérité, cela provient entièrement de la part de l'inférieur. Du supérieur, c'est impossible qu'il y ait quoi que ce soit qui soit moins que 100% don, car cela serait contre sa nature. Cependant, alors, au pied du mont Sinaï, c'est-à-dire, il y a une question particulière et une question générale. Donc, tout le peuple d'Israël a été prêt à recevoir la Torah, comme il est écrit, et le peuple campa au pied du mont Sinaï comme un seul homme dans un seul cœur. Alors, le public, à ce moment-là, était prêt. Il n'avait qu'une seule intention, qui est une pensée unique concernant recevoir la Torah. Cependant, il n'y a pas de changement depuis la perspective du donneur, le Créateur. Lui, toujours il donne, comme il est écrit, que chaque jour une personne doit entendre les 10 commandements sur le mont Sinaï. C'est-à-dire que il y a un état une connexion spéciale entre la personne et le Créateur, et cette connexion spéciale est appelée l'occasion du Mont Sinaï, ou le lieu du Mont Sinaï, où la personne s'élève au-dessus de sa haine, de son ego, de son désir de recevoir, de sa haine pour les autres. Et alors, dans cet état, lorsqu'il s'est élevé au-dessus, il est alors appelé Moïse, Moshe, c'est-à-dire qu'il a atteint une lumière qui le tire, cet état qui le tire hors de son ego, au-dessus. Et alors, c'est considéré que il est dans l'état, la location du Mont Sinaï et qu'il est récompensé par les 10 commandements. C'est-à-dire qu'il commence à comprendre et à ressentir, à connecter avec le supérieur, le degré plus élevé, et il commence à en recevoir des forces et des conditions de comment y être connecté. Après quoi, il commence à comprendre, à ressentir, à acquérir ce degré supplémentaire, qui est appelé de la Torah. Et il continue. La Torah est appelée la portion de vie et la potion de mort. Nous devons comprendre comment deux opposés peuvent être dits au sujet d'un sujet unique. Que la lumière, cette même lumière qui brille dans une occasion si élevée, et même plus que cela, elle a deux qualités en elle. Et quand cela arrive à la personne, elle peut accomplir deux actions opposées. De l'apporter, d'arriver à lui comme une potion de vie, ou d'arriver à lui comme une, et lui apporter la potion de mort. Comment est-ce possible que ces deux choses, qui sont opposées d'un bout à l'autre, restent et existent dans un lieu unique, elles proviennent d'une source unique du Créateur? Et donc il dit la chose suivante. Il faut savoir que nous ne pouvons atteindre aucune réalité telle qu'elle est en elle-même. Plutôt, nous atteignons tout uniquement selon nos sensations. Car la lumière supérieure, lorsqu'elle vient, bien, nous n'avons pas le choix, nous parlons tel que nous percevons les choses, tel qu'on peut les comprendre. Ça vient d'abord par nos sens et nos qualités jusqu'à ce que nous l'apercevions, car elle existe dans certaines réceptions de perception que nous avons, dans notre esprit, dans nos émotions. Et par conséquent, nous pouvons dire que... Que ce qu'il dit, c'est que la Torah est appelée une potion de mort et une potion de vie. Nous devons comprendre comment deux opposés peuvent être dits au sujet de... dans un sujet aussi élevé. Et que nous devons savoir que nous ne pouvons pas atteindre aucune réalité telle qu'elle est en elle-même. Mais plutôt, nous atteignons tout uniquement selon nos sensations. Et la réalité telle qu'elle est en elle-même, et d'aucun intérêt pour nous, aucun. Nous ne savons même pas ce qu'elle est. Nous n'avons pas de récipient pour cela, jamais nous ne la goûtons, nous n'avons pas de réchimote, de réminiscence de cela, et nous pouvons dire que pour nous c'est intéressant, que cela, qu'on y appartient, qu'on avance vers quelque chose, simplement comme on le voit avec le minéral végétal et même l'animal, sur les degrés qui sont en dessous du degré de Adam, de l'humain, chacun d'entre eux opère au sein de ses frontières, de ici jusqu'à là. la personne, l'humain qu'on voit, et on peut aussi le voir un petit peu dans les animaux, comme ils se développent, qu'ils passent par des changements dans leur récipient de perception, dans leur comportement, et ainsi de suite, mais aussi seulement dans ce rang dans lequel ils se développent, et non pas au-dessus. Donc, c'est ce qu'il dit. Nous devons savoir que nous ne pouvons atteindre aucune réalité telle qu'elle est en elle-même, y compris la lumière supérieure, y compris le Créateur, y compris les amis, y compris tout ce que nous ressentons dans nos sensations. Que la chose en elle-même, nous ne l'atteignons pas. Nous n'avons pas de sens pour cela, ni la capacité, parce que tout ce que nous l'atteignons dans nos récipients de réception, de perception. Que une certaine influence rentre dans nos sens, et nos sens, selon la façon dont ils sont construits à ce moment, ils nous donnent une certaine sensation. Et cette sensation, alors on peut en parler. Plutôt, nous n'atteignons tout que selon nos sensations, et la réalité telle qu'elle est en elle-même n'est d'aucun intérêt pour nous, aucunement. Par conséquent, nous n'atteignons pas la Torah telle qu'elle est en elle-même. Elle est une lumière abstraite, supérieure, abstraite, mais uniquement abstraite. Nous ne l'atteignons pas du tout. Nous n'atteignons que nos sensations. Ainsi, toutes nos impressions suivent seulement nos sensations. Bon, pour le moment, je ne vois pas de questions, donc continuons. Par conséquent, quand l'homme étudie la Torah et que la Torah l'éloigne de l'amour de Dieu, disons qu'elle l'éloigne, qu'elle le distancie. Précédemment, il se ressentait comme plus proche et avec une plus grande inclination vers le Créateur. Cette Torah est certainement considérée comme une potion de mortelle si elle le distancie, elle l'éloigne du Créateur. Et c'est ainsi que nous devrions l'accepter, comme une définition. Et inversement, si cette Torah qu'il étudie le rapproche de l'amour de Dieu, elle est certainement considérée comme une potion de vie. C'est-à-dire, tout est selon le ressenti. Mais la Torah en elle-même, la réalité de la Torah, son existence en soi, sans considération de l'inférieur qui doit l'atteindre, est considérée comme une lumière sans récipient, sans clé, où il n'y a aucune atteinte d'aucune sorte. Nous ne pouvons pas le percevoir, le saisir tel qu'elle est en elle-même, car il n'y a pas d'impression d'elle. Car tout doit passer par nos récipients, et selon les discernements, se rapprocher, s'éloigner, bon, mal, c'est entièrement selon notre désir de recevoir. Par rapport à comment je l'atteins, comment je le ressens, selon cela, en fait, je mesure cette chose. Par conséquent, sans la considération de l'inférieur qui doit l'atteindre, la Torah est considérée une lumière sans clé, où il n'y a pas d'atteinte d'aucune sorte. Ainsi, lorsque nous parlons de la Torah, cela se réfère aux sensations qu'une personne reçoit de la Torah. L'impression, l'enthousiasme, et seulement eux, ces sensations dans la personne, déterminent la réalité des créatures. Nous ne savons pas ce qui existe en dehors de nous, jamais, mais uniquement nous, quoi que nous ressentons. Qu'est-ce qui marche sur nous, nous l'ignorons. Qui est-ce qui opère également, nous l'ignorons. Nous pouvons savoir de ce que nous ressentons selon nos récipients. Qui est-ce qui opère et comment est-ce qu'il opère, et c'est entièrement selon nos récipients. Avant l'influence supérieure qu'elle passe par nos sens, et nous la percevons, nous la comprenons, nous la ressentons, nous pouvons y faire des discernements. Avant cela, nous ne savons rien à son sujet. Si elle existe ou pas, comment. Quand l'homme travaille pour lui-même, c'est appelé l'olishma, mais de l'olishma, il parvient à l'ishma. De ce fait, s'il n'a pas encore été récompensé de recevoir la Torah, il espère encore être récompensé de la réception de la Torah dans l'année suivante. L'année suivante, ça peut être dans une minute ou dans un mois ou dans 10 ans. C'est-à-dire, l'année Shana provient du mot Shinui, changement. Donc, avec le nouveau prochain changement, il peut être récompensé. Mais lorsqu'une personne a été récompensée de la complétude de l'Ishma, quand il est dans quelque contact mutuel avec le Créateur, il n'a rien à faire de plus dans ce monde, c'est-à-dire que dans le désir de recevoir actuel qu'il a, puisqu'il a déjà corrigé tout, il a corrigé son désir de recevoir, à être dans la complétude de l'Ishma. Alors il commence à ressentir, dans une certaine mesure, l'influence du Créateur sur lui.
Et
pour cette raison, chaque année, il y a le temps de la réception de la Torah, puisque ce temps est propice pour un éveil d'en bas. L'éveil d'en bas. Donc, nous devons comprendre que il n'y a pas de bon moment ni de mauvais moment. Ces moments, nous pouvons les déterminer. À ce sujet, il est dit que Israël, c'est-à-dire ceux qui aspirent à la révélation du Créateur, sont au-dessus des étoiles et des charms qui. C'est-à-dire que nous pouvons toujours déterminer dans quel état nous voulons nous trouver et dans où il n'y a pas de limitation. Le Créateur nous a donné un désir vers lui et tout le reste, c'est mes fils m'ont vaincu. C'est-à-dire dans la mesure où nous voulons désir notre désir égoïste qui nous sépare du Créateur. Par conséquent, chaque année, il y a le temps de la réception de la Torah, puisque ce temps est propice à l'éveil d'en bas. Ça, c'est parce que alors le temps, c'est l'éveil du temps lorsque la lumière du don de la Torah a été révélée dans les inférieurs. Il y a une telle chose en général dans tout ce que nous découvrons. Nous le découvrons par des choses qui auraient dû advenir dans notre monde et plus tard ou en potentiel, et plus tard, en fait, elles arrivent en actualité. Comme on apprend dans la sagesse de la cabane elle-même qu'il y a des actions dans le roche et des actions dans le gouffre. Donc, les actions dans le roche sont appelées des actions qui sont dans la racine, en potentiel, et les actions dans le gouffre sont appelées des actions qui sont dans les branches, ou bien déjà en pratique. Donc, ça, c'est parce que alors le temps s'éveille lorsque la lumière du don de la Torah est révélée aux effets inférieurs. Par conséquent, il y a un éveil d'en haut qui donne la force aux inférieurs pour pouvoir exécuter ce qui est nécessaire, qualifié pour la réception de la Torah, pour qu'ils se qualifient, pour qu'ils s'élèvent avec une sensibilité qui est adapté pour le ressenti de la lumière supérieure, comme c'était alors lorsqu'ils étaient prêts à recevoir la Torah. Par conséquent, si l'homme marche sur un chemin où l'olishma l'amène à l'ishma, alors il marche sur la voie de la transition de l'olishma à l'ishma, qui est appelée la réception de la Torah, il marche alors sur la voie de la vérité. Il doit donc espérer qu'elle sera finalement récompensée par l'atteinte de l'ishma et la réception de la Torah. Que ces éléments changeront en lui et qu'il atteindra l'intention de, afin de donner vraiment, au moins dans une certaine mesure. Et alors, en fonction de cela, il commencera à connaître le monde supérieur pour constamment maintenir le but devant ses yeux. Autrement, il marchera sur une ligne opposée, puisque la racine du corps est la réception pour soi-même. C'est pourquoi il est toujours attiré par sa racine, son corps, le gouffre, la personne, le désir de recevoir, le tire vers sa racine, qui est l'inclination à recevoir, l'opposé de la Torah, qui est appelée l'arbre de vie. C'est pourquoi le corps considère la Torah comme la potion de mort. Ça, en fait, c'est un petit article. Tout le monde, et la main de tout le monde l'atteint. Donc maintenant la question c'est, quand la lumière supérieure agit sur nous et qu'elle nous développe, est-ce qu'on peut l'influencer? Pour le meilleur ou pour le pire? Donc ils disent que la lumière supérieure, lorsqu'elle nous influence ou bien lorsqu'elle nous donne, on peut l'influencer dans la mesure où on s'en rapproche. Dans la mesure où tu l'atteins dans des actions communes, dans des actions où tu vous comprenez l'un l'autre, vous êtes proches les uns des autres, alors selon comment la lumière opère, vous également vous voulez opérer. Et alors certainement vous vous développerez ensemble, bien plus que quelque partie de la création qui ne fait pas de tel effort. Et c'est comme ça que c'était pour nous par le passé. Et par conséquent, Baal HaSulam écrit à ce sujet que nous nous sommes développés bien plus que d'autres groupes de gens, parce que nous avions l'opportunité de nous connecter à la lumière supérieure selon nos actions vers lesquelles nous nous dirigions, vers l'équivalence de forme, c'est-à-dire à travers la connexion entre nous, et alors cela agit sur nous d'une façon que nous avons avancé, et nous avons bien avancé, et nous étions hautement développés, jusqu'à ce que nous-mêmes...
Thank you, Rav. A question for
Merci, Rav. Une question d'un ami. Quels sont les actes qui qualifient la réception de la Torah et comment peut-on savoir que nous sommes prêts pour la réception de la
Torah?
Les actions qui nous qualifient pour la réception de la Torah sont principalement une, la primordiale, qui est une inclination vers la connexion entre nous, dans le même style, dans la même forme, telle que nous étions avant la brisure, avant le péché de la connaissance. Et parce qu'alors nous étions comme un désir, et la lumière supérieure, c'est-à-dire le Créateur, la présence du Créateur, nous a remplis, ce qui est appelé Adam Harishon dans le Jardin d'Éden. Suivant la brisure, nous devons assembler ces connexions entre nous dans la même forme qui était là auparavant, mais selon le désir qui fut révélée entre nous, comme la brisure. Et bien sûr, nous ne savons pas ni la forme qui existait avant la brisure, ni comment le faire. Cependant, il y a quelques conseils ici. Il y a quelques conseils du Créateur, des kabbalistes, qui eux-mêmes l'ont fait. Et l'un dans l'autre, tous ces conseils concernent la connexion correcte, sont appelés la sagesse de la Kabbale. Et on essaye de l'implémenter, et de telle façon d'avancer au point où la lumière supérieure influencera notre connexion de la bonne façon. Et plus tard, elle nous remplira selon notre connexion. C'est pas la question de Vlad, mais bon. Bon, là, il est bloqué. Donc, dans l'article, il est dit que
il
y a une illumination d'en haut qui permet la préparation de la Torah. Mais on dit que d'en haut provient la lumière et la Torah. Donc en quoi est-ce différent de ce qu'on a d'en bas? Il y a beaucoup de types d'influences qui proviennent du créateur à la créature. Plaisante dans toute forme de don ou déplaisante, bonne, pas bonne. Ces dons qui nous influencent sont appelés des temps parce qu'ils construisent en nous le ressenti du temps, le ressenti du changement, une séquence et un ordre de changement. Et nous, nous voulons atteindre la source de ces changements, qui est appelé le créateur, Bo Ure, vient et voit. Et donc, si cette source ou avec cette source elle-même, nous n'avons pas de connexion, mais uniquement en atteignant les changements en nous, c'est appelé par tes actions, nous te connaissons. En d'autres termes, par ses actions entre nous, il accomplit sur nous et nous sommes le résultat de ses actions. Selon ses actions, je dois rechercher et arriver à un état où je le connais à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire à 100%? 100% de son influence sur nous. En cela, je reconnais ses influences. Et de là, je compile, j'assemble l'image du Créateur, qui il est. Cette recherche est appelée la science de la Kabbale. C'est-à-dire, nous recevons des influences ou des dons du supérieur, nous les étudions. À travers ces influences, nous voulons nous relationner à ces influences d'une façon que on interfère le moins possible avec ces interférences. C'est comme une science où ils veulent être aussi objectifs que possible et non pas instiller leur interférence dans la recherche. Ne pas instiller aucun signe d'eux-mêmes, les signes d'interférence, d'observer le phénomène en lui-même, proprement, tel qu'il arrive, et qu'il influence la personne. Et afin d'arriver à une telle recherche, et ça c'est le principal, car le Créateur veut qu'on le connaisse lui, et qu'on le connaisse selon ce qu'on découvre et dont on se rapproche et être comme lui. Et donc, on ne peut le connaître que en interférant le moins que possible dans ce qu'il fait en nous. Donc, d'un côté, je dois étudier toutes ses opérations parce que c'est le commandement, c'est sa volonté. D'un autre côté, je dois étudier aussi profondément que possible, avec le moins d'interférences possible, c'est-à-dire de l'influencer le moins possible, à interférer avec, intervenir le moins possible dans chaque champ de science et de recherche lorsqu'on étudie quelques phénomènes naturels. C'est comme ça qu'on veut que ça soit. Donc quand je rentre là, je vois et étudie tout, mais c'est comme si je n'existais pas. Je veux être une sorte de propre, pur. Comment on dit ça? D'être de cette façon pure dans toute opération du Créateur. Donc pourquoi est-ce qu'on veut le faire comme ça? Comment le peut-on? Le Créateur nous a donné des voies dans la science pour le faire. Tu dois accomplir la restriction sur le désir de recevoir. Tu dois travailler au-dessus du désir de recevoir, similaire à moi, afin de donner. Et de cette façon, avec la lumière réfléchie, tu commenceras à connaître toutes mes opérations de façon pure, propre, telle qu'elle est en elle-même, sans ton intervention. Et il dit même plus. J'ai construit pour vous une échelle d'atteinte où, dans la mesure où vous pouvez graduellement vous adapter vous-même à être à ne pas interférer dans votre recherche de moi. Selon cela, vous me découvrez et ferez avec moi ce que vous voulez, pas de problème. Moi, je suis prêt et je veux toutes ces choses et je les anticipe. Et cette étude s'appelle la sagesse de la Kabbale. Et tout ce processus, on l'appelle le... La question, Denis, peux-tu la répéter?
Oui.
La description de Bala Sulam ici concernant les conditions de la réception de la Torah par le peuple. Le peuple campa au pied de la Mont Sinaï comme un homme dans un cœur. Bien, ça c'est clair. Nous devons nous établir autant que possible de la corporalité à la spiritualité, nous établir comme un récipient unique. Et on passe par des corrections, depuis la brisure à la correction, donc on doit se rapprocher les uns des autres. Sur un plan physique et sur le plan spirituel, graduellement. Ici, il décrit la condition que la préparation devrait être du côté du public tout entier, de tout le monde, un récipient unique. C'est-à-dire que si tout le monde ne prend pas part à ce projet de... Bien, ça dépend de tout le monde. Tu as vu plus d'une fois ce qui advient avec les gens dans ce monde. Chacun a son rôle, chacun est né avec différentes qualités et différentes conditions, et chacun fonctionne, et c'est appelé vivre les uns des autres. En d'autres termes, soit nous sommes ensemble de façon instinctive, dans un système, et de cette façon on opère les uns sur les autres, ou bien on comprend déjà que nous devons être connectés, et alors nous accomplissons plus d'actions délibérées vers la connexion. Si je puis continuer. Plus tard, il écrit que Israël était prêt, ils étaient prêts à recevoir complètement la Torah, qu'ils voulaient s'unir, que l'aide et le support mutuel, la connexion mutuelle les relieraient ensemble comme des cellules d'un corps unique. En d'autres termes, ils font de même tout ce qui est possible, mais dans le même temps, ça c'est ce qu'ils peuvent faire et le reste est fait par la lumière supérieure. C'est comme ça. Les corrections sont certainement d'en haut. Adresse. Et il a brisé le récipient de la maréchale. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus que ça? Donc ce qu'il demande, c'est est-ce que ça dépend de nous? Comment est-ce que nous percevons ces obstacles? Et aussi, comment est-ce qu'on les surmonte? Et il demande si nous surmontons, alors est-ce que c'est considéré comme un éveil d'en bas? Quand c'est considéré comme un éveil d'en haut et quand c'est considéré comme un éveil d'en bas? C'est encore difficile à comprendre pour nous. Nous devons vraiment avoir la force de distinguer entre les sources qui s'éveillent. Moi, je le dirais comme ça, pour le moment. Pour notre échelle. Je ne peux pas voir ce qui se passera plus tard. Ça dépend beaucoup du ressenti et de la préparation, de combien nous construisons le désir commun. On pourrait dire que si le récipient ressent qu'il crée une force commune parmi les amis et que cette force est l'opérateur et qu'elle commence à être une force indépendante qui existe en elle-même, c'est considéré qu'ils ont apparemment engendré depuis l'intérieur d'eux comme un utérus la dame à partir d'eux, c'est-à-dire une qualité nouvelle dans leur connexion qui est similaire au Créateur. Et alors, ça, ça existe déjà en soi. Ça va? Donc, quand nous faisons cet effort, de quelque façon, nous attirons la lumière qui réforme. Donc, quand nous faisons cet effort, comme vous avez dit, de surmonter, le ressentiment vis-à-vis des amis, l'amour des amis, est-ce que c'est considéré que nous attirons la lumière qui réforme? Qu'est-ce que ça veut dire de surmonter les amis? Nous devons surmonter notre désir de recevoir. Non, quand nous faisons l'effort, cet effort de rechercher d'aller au-dessus des obstacles, d'une certaine façon, nous attirons cette lumière. Quand nous mettons l'effort pour surmonter tous les obstacles dans une certaine forme, est-ce qu'en fait, par là, nous attirons la lumière qui est la forme? Dans la mesure où nous avons cette disposition à nous connecter, selon les récipients, par cela, nous influençons la lumière supérieure afin qu'elle se rapproche de nous. Et nous influencera nos efforts pour nous connecter. Ça, c'est appelé la lumière qui opère comme la lumière qui réforme, ou qui nous fait retourner au bon état où nous nous trouvons avant la brisure. Et dans la mesure où nous complétons notre quota, pour le moment où nous avons accompli notre effort à nous connecter, en fonction de cela, nous avançons. Et de la même façon.
Merci, Rav.
Quand on s'engage dans la Torah, c'est-à-dire quand on s'engage dans le don, on peut recevoir la lumière de la correction. Qu'est-ce que ça veut dire de recevoir la Torah? Recevoir la Torah, on apprend beaucoup de choses à ce sujet. C'est appelé d'abord et avant tout de comprendre le plan de la création, selon le degré de la personne. Avancer vers l'état où tu es impliqué dans ce programme, tu y participes. C'est appelé que tu te changes afin de réaliser la Torah, ce qui est appelé apprendre la Torah. L'apprentissage ne peut pas être passif. Je sais que quelque chose est écrit. Plutôt, c'est sur notre chair, comme c'est appelé. C'est-à-dire que j'accomplis toutes sortes d'opérations selon la lumière. La lumière m'influence et j'accomplis par mes opérations, j'influence la réception de la lumière. Et de cette façon, nous travaillons ensemble avec elle, ce qui est appelé travailler la Torah, avec la Torah, en pratique. Tout comme on travaille avec une machine. Quand je travaille, je change quelque chose, j'étudie ce qui a changé, je change quelque chose d'autre, et j'étudie ce qui a changé. Et de cette façon, nous apprenons la Torah. Et par cela, quand j'influence le système en tant que créature, et le système est ce qui me connecte au Créateur, donc de là, nous étudions le Créateur. Je peux poser une autre question?
Oui.
Vous avez dit à un ami une fois que nous devons également atteindre la connaissance, que c'est important, et au-dessus, le couvrir avec le désir de donner. Parfois, il y a un ami qui pose une question et vous l'appelez un malin. Donc, pourquoi c'est pas bien? Pourquoi ça marche pas ensemble? Si cet étudiant révèle des désirs uniquement de connaissances, comme les scientifiques de ce monde, et non pas afin de changer, de s'améliorer vers la connexion avec les amis, et par cela provoquer une révélation du Créateur afin de lui apporter du contentement. En d'autres termes, il ne veut pas éveiller la lumière supérieure de sorte qu'elle brille sur nous. Donc, il est appelé un malin parce qu'il veut la connaissance, mais la nuit, car son intention n'est pas d'apporter la lumière. Merci.
Non.
Bon.
Petah
Tikva, 31. Une question de la dizaine. Comment sait-on dans la dizaine que nous marchons sur le chemin de la potion de vie et non pas la potion de mort? Ça, il l'évoque dans plusieurs articles. Si je vais avec la potion de vie, je ressens un éveil, une inspiration. Je vois devant moi ce que je dois faire. Il se pourrait que je ne le veuille pas tellement selon ma nature, mais selon ma connexion à la Torah, je comprends qu'il doit y avoir une ascension ici, au-dessus de ma nature, qui est appelée, la foi au-dessus de la raison. Qu'est-ce qui est ressenti dans la dizaine durant le temps de la potion de mort? À contrario de la potion de vie. Quand on ressent la potion de vie, nous nous connectons. Nous ressentons en cela que la lumière, la potion de vie et la lumière supérieure, elles circulent entre eux, les connectent. Oui. Et ça, c'est la potion de vie. Quand le Créateur éveille en eux et de cette façon les soutient, dans cette mesure, ils ressentent qu'ils adhèrent entre eux et avec le Créateur.
Non, non.
Maï parnasa tova b'avoda ruchanit.
Qu'est-ce qui est appelé de bien vivre ou de bonne nourriture dans le travail spirituel? Je dirais la reconnaissance de l'importance de la connexion. Parce que ça, c'est l'instrument qui est dans nos mains et que l'on peut y arriver et changer et vivre, ça c'est important. Bon, le dernier, Beersheva. Bonjour Rav, bonjour la dizaine mondiale. Avec votre permission, Rav, nous discutions dans le workshop avant la leçon. Comment est-ce qu'on définit la Torah selon la lumière qui donne de la lumière qui réforme, la lumière qui corrige le désir de recevoir? Comment est-ce qu'on définit la Torah de sorte qu'on puisse être d'accord sur un but bien défini et non pas le laisser vide?
כל הקשר, כל התוכנה, כל ההתקשרות הדדית, הכל זה נקרא.
Il dit que la Torah, c'est tout, sauf la...
Envers nous.
Shalom Europe.
Question de Europe. Il est écrit que la Torah est cette drogue de la mort. Mais c'est écrit aussi que c'est le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah est cette drogue de la mort. Dans la mesure où nous révélons que la lumière supérieure, c'est elle qui a brisé le clé. Et du fait qu'il est bon et bienfaisant, il doit nous faire passer au travers de toutes sortes de systèmes, les uns des d'autres systèmes. Alors, il se trouve que nous devons connaître la Torah aussi comme la Torah de la vie et la Torah de la mort. Et dans ce lien, contact entre les deux, plutôt ces deux situations, puisque Torah, c'est ce qui se révèle dans le cli, parce que c'est la lumière qui nous corrige, ce sont des situations qui se corrigent. C'est appelé la Torah. Quelque chose qui enseigne l'homme de mauvais état vers le juste état. Alors pourquoi cette drogue de la mort? Pourquoi on appelle ainsi la Torah? La Torah, c'est la drogue de la mort parce que nous sommes dans ce désir. Elle nous enseigne que nous sommes dans le désir de recevoir qui nous tue. Et dans la mesure où nous comprenons ça, la Torah devient la drogue de la vie. Comment peut-on discerner, voir, être sûr que la Torah nous éloigne de l'amour du Créateur? C'est pas clair à la fin de la question. Comment on peut comprendre que la Torah nous éloigne de la marchika, nous éloigne de l'amour du Créateur? Chaque changement qu'il y a en nous, nous devons tout attribuer au Créateur et à la Torah, tout changement qui agit en nous. Et de ce fait, il n'y a pas de problème. On ne peut pas penser que la Torah complètement, c'est quelque chose qui est beau, agréable. Non, la Torah, c'est un système qui vient nous corriger et nous élever au degré du Créateur. C'est ce moyen pour briser l'homme, par quoi? Par la Torah. Vider l'homme par la force de la Torah. Tout est la Torah. C'est le moyen que le Créateur s'occupe de nous pour nous faire passer de tous ces cas les pires. Et ces cadres comme de la mort vers les choses les plus importantes, les plus grandes, et tout se fait par la Torah. Ce qui veut dire que j'aurais plutôt dit que la Torah corrige, enseigne, nous éduque. La Torah nous éduque, elle fait tout. Même la brisure des kelim a été faite par la Torah. par la lumière. Aussi, la correction de tous les kelim se font par la Torah. Et tout est la Torah. Se fait aussi. L'obligation de choisir un environnement adéquat, on commence un titre juste avant. Alors, dès lors, vous pouvez comprendre ce que Rabbi Yossi, fils de Kishma, qui a répondu à un homme qui voulait qu'il vienne habiter dans sa ville et qui voulait lui donner une immense fortune en or. Et même si tu me donnais tout l'argent et l'or, toutes les pierres précieuses et les perles fines de la terre, je ne fixerai ma résidence que là où il y a la Torah. Et ces mots dépassent le simple entendement. En effet, comment renoncer à une immense fortune en or et en argent pour une chose aussi futile? Ne pas vouloir habiter dans une ville où il n'y a pas d'études de la Torah, alors que lui-même était un grand sage et qu'il n'avait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de qui que ce soit, c'est un grand mystère. Mais comme nous l'avons vu, c'est une chose très simple que chacun d'entre nous peut observer. Car bien que nous possédions tout, notre propre programme, notre matzah, aucune force ne s'active sauf à l'aide de l'environnement dans lequel il se trouve. Tout comme le grain de blé se met en terre, dont les forces ne s'activent qu'à travers son environnement qui comprend la terre, la pluie et la lumière du soleil. Et c'est pourquoi Rabbi Yossi, fils de Kisma, a bien évalué le fait que s'il quittait l'environnement adéquat qu'il avait choisi et que s'il vivait dans un environnement nuisible, c'est-à-dire dans une ville où l'on n'étudie pas la Torah, non seulement ses pensées antérieures seraient compromises, mais toutes les autres forces cachées dans son programme qu'il n'avait pas encore révélées resteraient inconnues, car elles-mêmes n'auraient pas l'environnement adéquat qui lui permettrait de les révéler. Et comme nous l'avons expliqué ci-dessus de façon explicite, ce n'est que dans la question du choix de l'environnement que l'on mesure le contrôle qu'un homme a sur lui-même et que c'est pour cela qu'il mérite récompense ou punition. C'est pourquoi il n'y a pas à s'étonner qu'un tel message comme Rabbi Yossi, fils de Kisma, ait choisi le bien et refusé le mal. Il ne s'est pas laissé tenter par des choses matérielles, comme il en a déduit par ses mots. D'ailleurs, au moment où l'homme quitte ce bas monde, il ne peut emporter ni or, ni argent, ni pierres précieuses, ni perles fines, mais uniquement la Torah et ses bonnes actions. Et c'est pourquoi les sages nous ont mis en garde. Procure-toi un rav et achète-toi un ami ou un maître, ainsi que les livres appropriés. Car ce n'est qu'en cela que quelqu'un peut être primandé ou loué pour le choix de son environnement. Mais une fois qu'il a choisi cet environnement, l'homme est entre ses mains, comme l'argile entre les mains du potier. Question de Kiev. Alors, s'il vous plaît, Kiev. Cher Rav, de façon concrète, pratique, il écrit que l'homme se gère, se maîtrise. Le groupe mondial pour Bnei Baruch, qu'est-ce que ça veut dire à tout moment que je choisis l'environnement, Rav? À partir du moment où tu connectes à ce bon environnement, alors, toi, tu es, si tu as une tendance juste par cette création de cet environnement. Si par les attributs que tu reçois, tu peux te rapprocher du Créateur, ça veut dire que toi, tu apprends Torah. Et du fait de cette union, se te révèle de plus et de plus de discernement juste. Et c'est ainsi que tu atteins la création, puisque toute la création, c'est ce même désir de recevoir qui est brisé. Et que tu organises. Et par rapport à ça, tu apprends la Torah. C'est ce qu'on dit, qu'on apprend la Torah. Ce même système que le Créateur exprès a brisé. Et que toi, par le fait que tu la corriges, tu l'unifies. Ce système, dans cet environnement juste, toi, dans ça, tu apprends ce système corrigé de plus en plus. Et cet écart entre le côté brisé et complet, tu apprends les attributs du Créateur, car en fin de compte, lui, c'est lui qui a structuré ce système et qui l'a brisé et t'a donné une opportunité, comme on fait avec les enfants lorsqu'on leur donne des cubes. Et il crée avec ça une maison, une structure. Alors toi, dans tout ça, tu fais des actions où tu comprends quel est cet intellect, ce cerveau du Créateur. C'est ainsi que tu l'atteins. Et dans la mesure où tu fais ces actions justes, ça veut dire que tu lui ressembles, tu deviens comme lui. Et ce qui t'aide à ressembler au Créateur, c'est la lumière qui nous corrige, Aura Marzir le Moutav, qui est la lumière supérieure appelée Torah. Et cette lumière inclut en elle tout ce dont nous avons besoin de savoir pour atteindre la force de celui qui agit sur l'homme. Et c'est notre but de le comprendre, de l'organiser. Et c'est ainsi que nous avançons vers l'atteinte du Créateur au travers des corrections. On peut pas faire autrement. Il y a des situations qui sont pas bonnes, car le Créateur, depuis le départ, a brisé le kli, et à nous de faire de notre mieux, vraiment comme des enfants, de reconstruire ce puzzle, ces cubes, qu'est-ce qui correspond à quoi, pour que à chaque fois, puisse positionner cette forme du Créateur de beau ou ré, viens et regarde, soit que de comme il est écrit, de tes actes on te connaîtra, et jusqu'à ce que nous connaissons de plus en plus cette force supérieure. Et alors, nous arrivons à être dans son degré, dans son lieu. Nous pouvons dire qu'on s'identifie à lui. On est en adhésion avec lui. Et c'est notre but d'atteindre le degré du Créateur. Et c'est pourquoi, et c'est ainsi qu'alors nous sommes appelés Adam. C'est l'homme déjà corrigé, complet. Oui, Khadera 1.
Rav,
dans cet article, selon ce que j'ai pu comprendre, que le rôle du kabbaliste est de rendre l'action possible. Est-ce que la tête, je comprends, tant qu'il n'y a pas de correction dans le corps, ce n'est pas une correction juste, Rav, oui. Tout le résultat du travail juste que nous faisons, c'est un lien juste entre nous. Selon la tête, la lumière se détend, s'étend de la force à la pratique dans notre corps pour que tout soit organisé de telle sorte pour que nous connaissions ce système complet. Et c'est alors que l'homme révèle tout ce système de la nature, de l'inerte parlant, inerte végétale et animale parlant, Ainsi, il comprend que le monde entier, c'est lui, et que tout ce qu'il voit, que c'est l'inerte, végétal, animal, il comprend que c'est ses parties à lui, et qu'il unitue en un seul corps, appelé un corps unique. Alors, c'est, s'il est dans ça, à l'intérieur du système, c'est là qu'il comprend, bon, aurait, viens et regarde, jusqu'à ce qu'on attend une situation où toutes les parties se connectent de telle sorte que, comment dire, que toutes ces parties agissent comme un, c'est ce qu'on appelle que la pénombre illuminera comme la lumière, soit que ce même corps brisé avec tous ses désirs opposés agisse dans l'harmonie entre toutes ces parties du corps brisé. Oui, Moscou 1. Merci, Rav. Est-ce qu'on peut dire que si j'essaye d'être dans ces pensées, est-ce que c'est cet environnement, Rav? Oui. C'est la meilleure des choses pour la correction, alors que moi, je pense tout le temps comment toutes ces parties, alors que je les vois en face de moi comme brisées, éloignées, et que j'agis dans cette direction où je veux les unir tous en un seul système. C'est notre travail. Soit que à nous de tout faire, en pratique aussi, faire tout, pour que tous les humains, en fin de compte, s'unissent en un unique système. Et que maintenant, nous voyons jusqu'à quel degré ils se trouvent dans... supérieur va les faire progresser, mais au travers de souffrances. Oui, c'est pourquoi il dit que les kabbalistes nous ont prévenus. Fais-toi un rave, un ami. Pourquoi ils nous ont prévenus? Pourquoi? Parce que Rav dit, si tu veux progresser dans la forme que le Créateur désire, à vous de réaliser ce que la Torah exige. Uniquement l'union. Qu'est-ce que d'autre demande la Torah? Rien d'autre.
I want to ask about the effect of the environment. So,
je voudrais demander sur l'effet de l'influence de l'environnement. Disons que j'ai plusieurs rôles dans le groupe. Chaque jour, je viens à l'étude du matin, je suis dans la diffusion, je traduis, mais en quelque sorte, je ressens que tout ce que je fais, c'est parce que le Créateur me donne le désir, la force de faire quelque chose sous l'influence de l'environnement. Je ne peux rien dire que c'est quelque chose que moi je fais puisque le Créateur fait tout. Alors, qu'est-ce que c'est cette impression? Que d'un côté, du côté physique, oui, j'ai des rôles, mais d'un autre côté, de façon intérieure, je sens que ce désir me vient de l'environnement et du haut. Donc, je travaille selon cette impression, mais en fin de compte, je ne sens pas que je fais quelque chose. Je ne fais quelque chose que si le Créateur m'oblige. Rav. C'est pourquoi il t'a dit dans l'article de la liberté que nous lisons, quel est vraiment ton libre choix? Que c'est uniquement d'unir la dizaine en un seul corps. Laisse l'humanité de côté. Et autre, c'est une étape deuxième où tu verras parmi tous eux une dizaine, Adam Arishon, c'est 10 séphirotes que le Créateur a créé et sans plus. Mais pour l'instant, tu as le groupe. Et à toi de faire de ton mieux d'unir ce groupe pour que tous se considèrent, ressentent qu'ils sont un seul corps, un seul homme avec un seul cœur. Et plus tu agiras dans ça, tu verras que c'est toi qui fais ça et pas le Créateur, mais toi, grâce à la force supérieure. Tu pourras rapprocher ces parties de plus en plus Et malgré que ce va révéler cet écart entre vous et que vous voudrez vous entretuer, vous voudrez malgré tout vous unir les uns aux autres en un unique système. Et cette étude, dans cet acte que vous faites dans la dizaine de d'union, vous donnera la compréhension qui est le créateur, qui est la créature et quel est ce système juste qui connecte créateur et créature, que le créateur c'est la force supérieure et que la créature c'est la dizaine. Ça arrivera. Nous, de plus en plus, nous comprenons toutes ces choses-là et nous progressons.
Rav, in the first lesson, can I yes. continue?
Rav,
in yes. the first lesson, je, you said that,
une autre question.
You have to do
à la première partie de la leçon, vous avez dit que vous devez faire le tzimtzum, qu'on doit restreindre le ego et que grâce à la lumière réfléchie, tu peux voir ou absorber les actes du Créateur et ressembler à cette force. Rav, oui. Mais l'inclusion, pour nous inclure dans Bina, on doit traverser par Gvura. Rav, non. Moi, je ne veux pas utiliser ces mots qu'on ne révèle pas encore en réalité. À nous, dans toutes ces situations qui se révèlent, et c'est sûr que tout se révèle du haut du Créateur, à nous de faire de notre mieux et de connaître, de nous connaître nous-mêmes et de nous, d'arriver à cette union, à l'union. Voilà. C'est notre travail. Comment? Rav, comment par le fait que tout un chacun aidera l'autre, commencer à parler et vous verrez combien dans vos efforts il y a une sagesse supérieure qui se réveille et que et cette force va vous diriger vers l'avant. Dans cette force qui se révèle, vous allez ressentir que vraiment cette force vous dirige vers l'avant. Pas plus. Toute l'action se fait dans la dizaine. Et c'est ainsi que vous allez progresser. Pourquoi Rabbi Yossi ben Kisma n'a pas vu la possibilité de diffusion dans cette nouvelle ville qu'on lui a proposée? Rav, il n'y avait pas de gens qui étaient prêts à ça. Il n'y avait pas, s'il y en avait des gens qui étaient prêts, alors ils se seraient unis à eux. Mais ici, il y avait un groupe où il pouvait la corriger et la mener vers l'avant. Aussi, lui-même, par lui-même, à l'intérieur de ce groupe, il pouvait grandir et se développer, apporter du contentement au Créateur. C'est sûr, puisque c'est ainsi que c'est. Mais s'il n'y a pas de groupe qui est capable ou qui est prêt à ça, alors quel est le bénéfice d'être dans un tel groupe, ce qui veut dire être dans une telle ville? Alors, c'est pourquoi nous faisons de notre mieux de corriger notre dizaine, tout un chacun, dans là où il se trouve, pour élever et élever la dizaine. Et à l'intérieur, quand dans un élévateur, un ascenseur, et c'est impossible que l'homme seul s'élève seul plus que la dizaine. Impossible. Il ne peut s'élever que dans la dizaine et ensemble jusqu'à ce que nous arrivons à ces 10 séphirotes du système d'Adam. L'homme se l'éloigne de ce parasite. Il se trouve que ce microscope ne conduit l'homme à s'éloigner de l'élément nocif et non un sens. car aucun sens n'a détecté le facteur nuisible. Et dans cette mesure que le cerveau maîtrise totalement le corps de l'homme pour l'éloigner du mal et le rapprocher du bien, ce qui veut dire que partout où l'attribut du corps échoue à identifier ce qui est nuisible, utile ou nuisible, il a besoin de l'esprit. Rav, soit que rien ne nous manque, uniquement comment atteindre ce même outil qui va nous aider de façon élargi pour pouvoir si c'est nuisible ou c'est utile. Alors, ce clé, ce microscope, si nous l'avons, c'est sûr qu'on va s'éloigner du mal et on ira vers le bien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que si c'est pas comme ça, ce qui veut dire, je me rends. Et comment on atteint ce microscope, cet appareil, puisque derrière ça, on n'a plus de travail. C'est sûr qu'automatiquement, on va s'éloigner du mal et on se rapprochera du bien. Qui est plus, depuis que l'homme sait que son esprit est une véritable conclusion des événements de la vie, il peut désormais accepter l'esprit et la connaissance d'un homme en qui il a confiance et voir en lui une loi, bien que dans sa vie, il n'ait pas encore découvert un tel esprit. Et cela ressemble à une question qu'un patient pense à son docteur lors d'une consultation. Bien qu'il ne comprenne rien, il se sert de l'intelligence d'autrui et le laisse l'aider comme sa propre intelligence l'aurait fait pour lui-même. Rav, ce qui veut dire que si nous sommes dans un bon environnement, moi, grâce aux amis, je peux révéler bien plus la grandeur du nuisible et de l'utile, et ensemble, les deux, j'aurai suffisamment de force pour aller dans ce juste chemin, juste et bon chemin. Et comme nous l'avons clarifié ci-dessus, il y a deux chemins de la Providence qui garantissent à l'homme d'en arriver au but défini. Soit, un, le chemin des souffrances et deux, le chemin de la Torah. Toute la clarté sur le chemin de la Torah en est issue. Car après que tous ces clairs concepts ont été révélés et reconnus dans la longue vie des prophètes et des hommes de Dieu, voici qu'arrive un homme qui les utilise pleinement et s'en sert comme si ces concepts provenaient de sa propre vie. Et vous voyez ainsi que l'homme se décharge de toutes les amères épreuves qu'il doit traverser avant qu'il ne puisse développer cet esprit limpide par lui-même. Il est donc exemple de souffrance et gagne aussi du temps. Cela ressemble au malade qui ne veut pas suivre les prescriptions du médecin avant qu'il ne comprenne de lui-même comment cette ordonnance peut le guérir. Et alors, il commence à étudier la médecine. Il pourrait mourir de sa maladie avant qu'il ne la comprenne. Tel est le chemin des souffrances par rapport au chemin de la Torah. Car celui qui ne croit pas aux idées que la Torah et la prophétie lui conseillent d'adopter sans compréhension personnelle, sera obligé d'y parvenir par lui-même. Ce qui signifie que ce n'est qu'en suivant les événements de sa vie qui lui sont dictés par la relation de cause à effet, ces expériences qui le brusqueront et lui feront prendre conscience de la connaissance du mal, comme nous l'avons vu, sans lui demander son avis. Ce n'est qu'en cela qu'il devra travailler durement pour se doter d'un bon environnement qui l'amènera à avoir ses bonnes idées et ses bonnes actions. Rav, donc si l'homme se trouve dans ce bon environnement, il acquiert d'eux. Ça ne doit pas être un environnement intelligent, car toute la sagesse de la Kabbale arrive par le fait qu'on s'inclut entre ces différents kelim, même étrangers les uns aux autres. Et plus il y a de collisions, d'écarts, malgré tout, et qu'au-dessus de tout ça, on veut s'unir, selon ça, on progresse. Et que tout ce progrès est du fait qu'on fait de son mieux pour unir des choses qui se trouvent opposées les unes aux autres. Et nous voyons ça dans la technique, dans la technologie, et que tout notre progrès dans tout ça, c'est parce que nous faisons de notre mieux et pour unir des attributs opposés de la matière sous différentes formes. Question de l'Allemagne. Est-ce que le choix de ce bon environnement, c'est ce que Rabbi Yossi Ben Kisma regarde la chose la plus importante de sa vie? Oui, notre choix est que moi, à tout moment, je dois, avec une nouvelle force, une nouvelle estime, je dois regarder le groupe, mon groupe, et m'éveiller, lui donner plus de valeur au groupe, et dans la mesure où je me soumets à eux dans cette mesure, moi, je progresse encore plus. Question de Marc 3. Durant les rencontres dans la dizaine, l'égoïsme nous dessine une forme que l'environnement n'a pas de force pour s'unir. Comment aimer cet environnement et faire partie d'elle de façon complète? Nous ici, nous devons aller dans la foi au-dessus de la raison, voir le groupe comme étant complète, parfaite, et j'aurai la force de m'inclure, de me soumettre, de me plier envers eux, de ressentir que je suis petit, qui se trouve dans les mains des plus grands, et de la sorte, il y aura cette inclusion entre tous, si c'est ainsi qu'ils veulent faire. Et nous, on y arrivera.